Au bout du fil, un homme qui est au cœur des événements présentement, la diplomatie canadienne, François-Philippe Champagne, ministre canadien des Affaires étrangères. Monsieur Champagne, bonjour.
Bonjour, Monsieur Lagacé. Merci. Désolé pour votre autre invité. Je voulais pas tasser personne, mais vous avez raison qu'on est occupé de ce temps-ci.
J'en doute même pas, puis je ne veux pas vous faire attendre. Parfait. Écoutez, avant de parler de la scène domestique, puisque vous êtes quand même membre du cabinet, là, je veux qu'on parle des Québécois, des Canadiens qui sont pris à l'étranger. Il y a autant de situations particulières. Là. Écoutez, la semaine passée, on a parlé à la mère de Mathilde Lafortune. Elle est en Inde, loin de Delhi. Il semble qu'il faut avoir un permis du gouvernement pour pouvoir se rendre à l'aéroport, prendre un vol de rapatriement. Qu'est-ce qui se passe avec l'Inde?
Bien, d'abord, ce qu'on est en train de faire, M. Lagacé, c'est l'opération de rapatriement la plus importante de l'histoire du Canada en temps de paix. Hein, faut commencer avec ça. Ce qu'on fait, parce qu'on fait face, puis là, je vais arriver dans le cas de l'Inde, on fait face à des enjeux de fermeture d'espace aérien, de fermeture de frontières, de fermeture d'aéroports et de restrictions dans le mouvement des gens, même à l'intérieur du pays.
De couvre-feu.
L'Inde, c'est un bel exemple. C'est un bel exemple où, nous, ce qu'on a été obligé de négocier, imaginez, d'abord, pour faire entrer un avion qui part du Canada ou même qui part de l'Inde pour se rendre chez nous, il a fallu négocier avec les autorités indiennes. Alors, ce qu'on a fait pour l'Inde, c'est de faire une entente avec la compagnie aérienne domestique, donc Air India, et avec Air Canada pour ramener les gens d'abord à Londres et ensuite les ramener au Canada. Là, vous allez me demander pourquoi on n'a pas de vol direct. Parce que les conditions sanitaires en Inde ne permettent pas aux équipages de pouvoir revenir sans devoir se mettre en quarantaine. Alors, vous imaginez que les transporteurs aériens nous disent, ben nous, on peut pas y aller parce qu'évidemment, si on fait ça, notre équipage pourrait pas revenir, devrait se mettre en quarantaine. C'est du cas par cas.
Prenez-nous par la main. Comment ça marche? On parle de l'Inde, là, OK? Vous appelez quoi, le gouvernement?
Je négocie. Écoutez, prenez le cas du Pérou. C'est moi qui ai négocié le moment d'atterrissage de l'appareil. Pour vous donner une idée, mais habituellement, vous comprendrez, M. Lagacé, ça se fait en compagnie aérienne qui opère.
Bien sûr.
Maintenant, on est dans un monde surréel où c'est le ministre des Affaires étrangères par texte, puis je vous le montrerai un jour, quand on a eu des vols sur le Pérou. C'est moi qui ai texté au ministre des Affaires étrangères en disant « J'ai besoin de vol sur le Pérou. » On a échangé. Il m'a dit « OK, tu peux venir mardi, jeudi, vendredi. » Moi, je lui ai répondu en disant « OK, à quelle heure? » Puis c'est comme ça qu'on a négocié parce que...
Par texto avec le ministre des Affaires étrangères péruvien.
Exactement. Tu sais, quand les gens me disent « M. Champagne, il y en a d'autres qui sont partis. » Je dis « Écoutez, je comprends la situation, je comprends l'angoisse, mais rassurez-vous, je peux vous dire que le Canada est aux premières loges parce que c'est on est rendu au point où c'est le ministre des Affaires étrangères qui doit négocier les droits d'atterrissage. Pourquoi? Parce que si vous prenez le Pérou, par exemple, on a la loi martiale maintenant. Alors, il y a juste un aéroport qui fonctionne dans le pays. Il faut amener nos gens jusqu'à Lima. Puis pour vous donner l'ampleur de la tâche, tu sais, nous, on avait quelques milliers de personnes. Mais si je compare avec mon homologue, l'Union européenne, hier ou avant-hier, ils ont encore 18 000 personnes à Lima à sortir. Alors, vous comprendrez...
18 000 Européens.
Oui, à sortir de Lima seulement. Ça vous donne une idée un peu du volume et de l'ampleur de ce qu'on est en train de vivre dans une complexité énorme parce que chacun des pays, évidemment, essaie de négocier des droits d'atterrissage, essaie de ramener les gens. Et l'Inde, c'est un autre exemple. Justement, on a annoncé des vols maintenant. On a fait une entente pour permettre aux gens de partir, évidemment, de l'Inde, finalement transiter vers Londres pour rentrer chez nous parce que ce qu'on vit en plus, qui était différent de toutes les autres crises, on a une crise évidemment sanitaire, mais aussi si vous regardez au niveau de l'aviation civile, vous avez des compagnies finalement qui n'opèrent plus. Même Air Canada qui avait 101 destinations, dans quelques jours, je pense qu'on va en avoir 4. Et moi, j'ai même négocié des ponts aériens, comme dans le temps de la Deuxième Guerre, en disant il faut au moins préserver un vol sur Paris, il faut au moins préserver un vol sur Londres, peut-être un sur Francfort, et je suis même pas sûr qu'on va en avoir un sur l'Asie. On est rendu là.
Okay.
Alors, vous comprendrez qu'à chaque cas, c'est du cas par cas. L'Inde, vous avez raison, on est très saisi de cette situation-là. Et pour permettre aux gens de sortir, bien évidemment, on était capable de les amener jusqu'à Londres. Et là, les gens pourront continuer sur leur destination au Canada, tout en s'isolant, évidemment, en rentrant à la maison. Parce que ça, c'est la loi. Les gens doivent s'isoler et on fait un contrôle à partir de l'embarquement. Donc, on parle de gens qui sont des voyageurs, comme vous puis moi, qui sont partis en vacances, qui se retrouvent à mauvaise place au mauvais moment, puis qui veulent rentrer à la maison.
Monsieur Champagne, c'est la loi que les Canadiens doivent s'isoler, mais je veux dire, on lance une roche de ce temps-là, puis on trouve des Canadiens qui reviennent de vacances, qui choisissent de ne pas s'isoler, qui vont faire leur épicerie, etc., etc. Pourquoi on n'a pas parqué ces gens-là dans les hôtels vides, qui sont vides partout à grandeur du pays, dès leur retour obligé?
Je vous donne, par exemple, c'est le volume. Si vous prenez un vol, quand on envoie un appareil, par exemple, sur le Pérou, on envoie un 777, ce qu'on appelle haute densité, 454 sièges. Mm-hmm. Vous imaginez, ça, c'est juste un vol. À date, on a eu 42 vols qui viennent de 29 pays. La capacité d'accueillir ces gens-là, par exemple, et de dire, OK, vous allez dans un hôtel, vous comprendrez qu'avec le volume, c'est pas possible. Et encore là, même si on faisait...
Vous pensez?
Ben, le volume est trop grand.
Non, mais je veux dire, au nombre d'hôtels vides, là...
Mais c'est parce que ces hôtels-là n'opèrent pas non plus. Moi, je peux vous dire, M. Lagacé, quand je suis allé, tout le monde en parle, justement, on a voulu avoir une chambre à Montréal, et les hôtels n'opèrent pas. Puis aussi, même si je mettais le monde dans l'hôtel, imaginez comment je pourrais...
Si le gouvernement payait, disons, pour l'opération de l'hôtel, là.
Il y a plusieurs complexités autour de ça, parce que même si je les mettais là, qu'est-ce qui me dit que ces gens-là vont rester là? T'sais, moi, je dis, la loi, c'est la loi. C'est un peu comme la vitesse sur l'autoroute. Il n'y a pas un policier à chaque viaduc pour s'assurer que vous n'allez pas plus que 100 km/h. Moi, je dis aux gens, écoutez, dans ce cas-là, c'est le gros bon sens, parce que non seulement vous protégez votre propre santé, mais vous protégez celle de vos proches, de votre famille, de votre communauté. L'idée, comme M. Legault le disait, c'est pas de passer à l'épicerie quand vous arrivez, c'est de rentrer vous isoler, parce que dans ce cas-là, vous mettez votre propre santé en jeu et celle de vos proches. Alors, l'incitatif pour moi de respecter la loi, il est encore plus grand que dans d'autres circonstances, parce qu'il en va de votre propre santé. Si vous vous isolez pas, vous allez contaminer des proches. Puis on l'a vu, des proches de gens qui sont revenus, qui ont été contaminés. Alors, il y a vraiment une raison de santé publique derrière ça.
Monsieur Champagne, vous êtes le chef de la diplomatie québécoise, là, canadienne. Et notre plus grand partenaire, notre voisin américain, on le voit, là, commence à allumer là, sur l'ampleur de la crise. Votre plus gros cauchemar comme ministre des Affaires extérieures, est-ce que c'est que les États-Unis ouvrent unilatéralement la frontière à un moment donné en jugeant que ça a assez duré?
Non, parce que l'entente qu'on a, évidemment, ça a été fait d'un accord mutuel, parce qu'on comprend, on ne ferme pas une frontière canado-américaine à la légère. Vous comprenez que c'est la première fois, je pense, dans l'histoire du pays, malgré que ça a été fermé, je pense, pendant quelques heures lors des attaques du 11 septembre, mais de façon, disons, plus longue, c'est la première fois. Il a fallu faire ça aussi en collaboration, en coopération, parce que vous comprendrez que non seulement quand on ferme la frontière, il faut penser à tous les impacts, hein, parce que nous, il faut s'assurer évidemment de la sécurité sanitaire des gens ici, mais il y a aussi la sécurité alimentaire. Il a fallu négocier évidemment pour que les camionneurs puissent traverser la frontière, pour s'assurer aussi que nos chaînes d'approvisionnement ne soient pas coupées, parce qu'on sait que depuis des décennies, les chaînes d'approvisionnement, tant au Québec, en Ontario que dans le reste du pays, sont très intégrées. Donc, c'est pas une décision qu'on prend à la légère. Vous avez des travailleurs transfrontaliers dans le coin de Windsor. Vous avez la situation à Vancouver avec l'État de Washington. Il a fallu prendre cette décision-là. J'allais dire, les gens s'attendent à ce qu'on prenne des décisions rapides, mais aussi réfléchies, parce que c'est lourd de conséquences, mais c'était la bonne chose à faire, comme vous dites, pour s'assurer de la santé et sécurité des gens de chez nous.
Le National Post a sorti aujourd'hui une nouvelle là, selon laquelle, selon un document gouvernemental fédéral, M. Champagne, il semble que le scénario le plus plausible, c'est qu'on soit dans les mesures actuelles jusqu'au début juillet. Les gens qui avaient des billets d'avion pour s'en aller, là, disons, après les classes, devraient tout de suite commencer à changer leur plan. Là.
Moi, je pense que l'endroit le plus sécuritaire pour l'instant, évidemment, c'est à la maison. Je pense qu'on va voir. Les Québécois et les Québécoises ont montré une grande discipline à s'isoler, à s'auto-isoler, parce que les gens ont compris que c'était dans leur propre intérêt de le faire, non seulement pour leurs proches, mais la communauté. Moi, je pense que les mesures d'isolement, ça va continuer, non seulement en milieu urbain, mais aussi en ruralité, dans nos régions. Il faut continuer de le faire. Et de par la discipline qu'on adopte tous et chacun, ben c'est ce qui va nous permettre éventuellement de voir la lumière au bout du tunnel, de pouvoir recommencer à vivre normalement. Mais c'est clair qu'on parle de semaines, qu'on parle de mois, parce que si on regarde l'expérience qu'on a vue dans d'autres pays, moi, je suis en contact avec mes homologues du G20, du G7, regardez le cas de l'Italie, regardez le cas de l'Espagne, c'est clair qu'on a encore des moments difficiles devant nous. Nous, on donne les données comme tout le monde. Il faut jouer d'honnêteté là-dedans, puis d'expliquer aux gens exactement ce qui s'en vient. Mais c'est clair qu'on en a pour des semaines, voire peut-être des mois aussi, avant qu'on puisse reprendre la vie normale pour s'assurer qu'il n'y a pas une deuxième vague. Hein. Il y a toujours cette question-là de la fameuse deuxième vague. S'assurer qu'on puisse être en sécurité. Et il y a des choses qui vont changer. Vous avez raison. Je pense que cet été, c'est clair que les Québécois vont prendre des vacances à la maison ici chez nous.
Dernière question avant de vous laisser partir, M. Champagne. Est-ce que, tantôt, vous nous avez dit que vous envoyez des textos, vous échangez des textos avec votre homologue au Pérou. Est-ce que vous envoyez des textos en Chine pour essayer de trouver du matériel médical? Avez-vous une patte là-dedans?
Ben, je suis en contact avec l'ambassadeur du Canada en Chine, évidemment, parce que vous savez, il y a des choses qu'on doit importer de la Chine pour ramener chez nous, autant au niveau des quantités que de la qualité. Donc, on travaille avec l'ambassade là-bas. Mais je vous dirais, c'est ça, c'est un peu un monde surréel qu'on vit parce que dans l'histoire, c'est rare que c'est le ministre des Affaires étrangères qui négocie lui-même les droits d'atterrissage, comme j'ai fait pour le Pérou, je l'ai fait pour l'Inde avec le président de la compagnie parce que ça permet d'aller un peu plus rapidement. Puis évidemment, les gens qui sont là-bas veulent que les choses avancent, je les comprends. Il y a des situations un peu partout. On a probablement ramené à date des dizaines de milliers de personnes. On doit être à peu près aux deux tiers ou aux trois quarts de l'opération. Mais moi, j'ai été honnête avec tout le monde. J'ai dit, c'est sûr que malgré toute la bonne volonté, compte tenu des restrictions qui sont imposées dans les pays, c'est vrai qu'il faut accepter qu'il y a des gens qui ne pourront pas revenir à la maison et qu'un jour, on va devoir, dans les semaines qui viennent, penser comment on peut les supporter durant cette période-là dans les différents pays où ils peuvent se trouver pour s'assurer qu'ils reçoivent des soins de santé et qu'ils soient en sécurité à travers la planète. Parce que vous comprendrez, on a des gens qui sont dans à peu près tous les pays sur la planète. On fait le maximum, mais c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile parce que les pays font comme nous, ils mettent des restrictions sur le mouvement des gens pour enrayer la propagation. Alors, c'est clair que c'est une course contre la montre, puis c'est pour ça qu'on fait ça 24 heures sur 24.
Très bien, mais on vous laisse travailler pour rapatrier les Québécois canadiens un peu partout. Merci beaucoup.
Merci, grand plaisir, bonne journée.
François-Philippe Champagne, ministre canadien des Affaires étrangères, au retour. Les accros sont là, il est 17h44.